Et où en est l'opposition à la politique de l'OMC dans le monde? Parce qu'on dit, voilà, l'OMC détruit des destructions sociales, environnementales, produites par ses politiques. Mais où en est l'opposition à ces politiques? Alors, c'est pas toujours sensible en France, on s'en rend pas compte, vu d'ici.
Alors, il y a différents types d'opposition. Il y a des gouvernements qui s'opposent à tel ou tel aspect. Par exemple, les producteurs de coton africains, qui sont détruits par les subventions au coton américain, constituent un front et ne veulent pas lâcher. Ils veulent obtenir la fin des subventions agricoles américaines au coton. Alors, on peut dire qu'ils sont contre un fragment de l'OMC. Vous avez également, un peu partout, surtout en Europe d'ailleurs, une réaction très hostile à l'accord général sur le commerce des services, qui aggraverait
la GCS,
qui aggraverait encore davantage la situation européenne que nous promet la directive Bolkestein, qui est d'ailleurs déjà en partie appliquée, compte tenu des énormes différentiels de coûts de main d'œuvre entre, par exemple, l'Allemagne et puis l'Estonie, par exemple. Donc il y a déjà un dumping social interne à l'Union européenne qui ne peut qu'être aggravé par un super dumping social mondial. Et il y a de très nombreuses collectivités en France, mais pas seulement en France, en Belgique, en Allemagne, etc., qui se sont déclarées zones libres de la GCS. Alors évidemment, c'est une posture politique. Légalement, ça tient pas très bien la route. Mais aux États-Unis également, il y a un mouvement extrêmement fort de pratiquement tous les États américains ont proposé des législations, et parfois les ont fait adopter, qui subordonnent, par exemple, des subventions publiques au recours à des fabricants locaux. Donc la résistance à la GCS, elle est très forte contre les délocalisations et contre l'exploitation de la main-d'œuvre. Elle est très forte aux États-Unis même. Donc il y a un mouvement qui se dessine. On a vu à Mar del Plata récemment, en Argentine, où avait lieu le sommet des Amériques, qui visait à impulser, à remettre en marche le grand accord scélérat zone de libre-échange des Amériques, qu'on appelle ALCA.
L'accord scélérat.
Oui, on peut l'appeler comme ça, je crois. Le S, ça serait de la GCS, ça pourrait être aussi scélérat. Et là, on a vu que les États membres du Mercosur, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, et surtout le Venezuela.
Ah, ça faisait longtemps.
Ben oui, mais là, il faut bien reconnaître les choses. C'est que si Chavez n'avait pas dit non, non et non, les autres gouvernements du Mercosur, qui étaient quand même un petit peu branlants, un petit peu tièdes, sans doute n'auraient pas résisté aux pressions américaines. Et là, pour la première fois, on a vu qu'il n'y avait pas unanimité, or ça requiert le consensus, et que les États qui représentent plus de 50% de la production américaine ont dit à bouche non, on ne veut pas continuer à négocier l'ALCA tant que vous n'aurez pas supprimé les subventions agricoles, ce qui permet de renvoyer ça au calendrier grec. Donc là, c'est un échec flagrant du libre-échange. Et puis on a vu également à l'UNESCO, au mois d'octobre, d'ailleurs nous en avions parlé dans notre numéro d'octobre, comment la quasi-totalité des États, avec deux exceptions, Israël et les États-Unis, ont mis en place une convention pour la promotion de la diversité culturelle, qui établit une sorte de co-tutelle sur les échanges de produits culturels entre l'OMC et cette convention. Alors ce n'est pas satisfaisant, il aurait fallu que l'OMC soit complètement éliminé du jeu. Ce n'est pas le cas, mais pour la première fois, il est admis dans une enceinte internationale et par une convention que les échanges culturels ne sont pas des échanges comme les autres. Donc le libre-échange subit de nombreux assauts. Et il les subit d'autant plus qu'aux États-Unis, maintenant il y a un retour, et Serge Halimi pour en parler plus savamment que moi, il y a un retour de bâton. Face à l'énormité de la capacité chinoise d'exportation, il y a quand même 200 milliards de dollars de déficit commercial seulement avec la Chine. D'un seul coup, les chantres du libre-échange découvrent que le libre-échange, c'est finalement pas bon du tout, et se prononcent contre. Donc, le mouvement intellectuel est de plus en plus hostile au libre-échange. Des collectivités de plus en plus nombreuses y résistent, mais ça a peine, pour l'instant, à se traduire dans les faits.